Radio G 105.5 FM.
Walking in the midnight sun.
La Fédération des radios associatives en Pays de la Loire s'associe à Trempo pour les auditions du Printemps de Bourges et soutient les artistes émergents de la région. Retrouvez les 6 groupes sélectionnés sur la scène du Shabada à Angers le 16 janvier avec Eli MC. Sahara.
Tu me vois danser sous la pluie, je te vois bronzer au soleil. Tu comptes les heures de tes nuits quand moi je n'ai jamais sommeil.
Sally.
Je fais l'amour, je fais l'amour. J'attends le jour où tu viendras frapper à ma porte.
Terrier.
C'est qu'un joujou dans la grande cour. Et les toutous nous tournent autour.
Wild Fox. Et Fierce.
Cause I love you. Love you for me.
Diffusion des concerts et interviews seront réalisées en direct par Radio G, Radio Campus Angers, E-Radio, Graffiti Urban Radio, Jet FM, Jade, L'Autre Radio, Prune et Sun. Découvrez les nouveaux talents régionaux avec les radios de la Frappe.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à l'écoute de l'oreille curieuse sur Radio G. RFI est en grève mais visiblement pas votre quotidienne d'actualité culturelle et locale. Un jeudi sur deux, dans cette émission, on retrouve des toiles plein les yeux, la chronique cinéma réalisée par Margot. Rendez-vous en deuxième partie d'émission. Avant cela, je vous propose de clôturer cette semaine en musique. J'ai choisi de vous faire réentendre Dogs for Friends. J'avais reçu le groupe Angevin à l'occasion de la sortie de leur premier EP, Fat Boy. Et si vous les aviez ratés sur scène, vous avez l'occasion de les revoir ce samedi. On sera le 11 janvier, c'est à partir de 20h30 au Garage, un bar qui est à Angers, boulevard Foch, qui est très sympathique. Et cette programmation est proposée par Hervé Productions. Avec les Dogs for Friends, il y aura aussi Elle Ayasha, un projet post-punk pop qui nous vient tout droit de Caen. Voilà pour le programme de cette émission. Ici Annelie au micro et c'est parti pour le retour vers le passé. Et nos invités de première partie, c'est Dogs for Friends. Alors il y a Charles, bonjour Charles.
Bonjour.
Il y a Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Et Massimo, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être là. Vous êtes quatre dans le groupe, il y a aussi Alexis.
C'est ça.
Je vais rappeler un peu qui fait quoi. Charles, tu es au chant et à la guitare.
Oui.
La basse, c'est Baptiste.
Exactement.
Massimo à la guitare aussi.
C'est ça.
Et Alexis s'occupe de tout ce qui est machine, clavier, synthétiseur.
Exactement.
Tout ça.
Toutes ces choses.
Toutes ces choses. Mais ça vous arrive aussi de chanter un peu tous les quatre.
Mmh.
On s'était vu dans cette émission au mois de mars. Là, vous venez de sortir votre premier EP, Fat Boy. Et le groupe est né en 2018. J'ai quand même l'impression qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses depuis qu'on s'est vu. Vous avez fait beaucoup de scènes, notamment le Joker's Pub pour On Stage, une première partie de Pépite avec le tremplin Tréma, vous avez fait des concerts à Paris, vous avez été en sélection avec le Ricard Live Music, sans doute plein d'autres choses dont j'oublie de parler. Et j'ai l'impression du coup d'avoir face à moi soit un groupe qui existe depuis très longtemps, soit un groupe qui est tout nouveau. Je sais pas comment vous, ça a changé la vie du groupe, ce que vous faites, toutes ces activités.
On se considère encore comme un groupe nouveau, je pense. Hein. On a encore pas mal de choses à prouver et à faire, en tout cas. On a pas mal de routes devant nous.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on on est passé par quelques étapes assez cool. On a réussi à se faire entendre un peu au-delà d'Angers, ce qui est plutôt agréable.
Justement, vous avez aussi pu rencontrer plein de personnes autour de votre musique, soit pour travailler avec ces personnes, soit aussi des publics que vous n'aviez pas rencontrés auparavant. Quels ont été un peu les échanges, les retours de pouvoir discuter du projet, qui est en effet encore assez récent, le groupe né en 2018. Comment ça a joué, ça ?
Globalement, c'est positif. On a beaucoup de retours très positifs de notre entourage, mais aussi les gens qui nous rencontrent en concert, qui prennent le temps de venir nous discuter avec nous à la fin des concerts, mais aussi professionnellement, on rencontre beaucoup de personnes qui sont là pour nous soutenir et nous aider.
Et ce qui est cool, c'est qu'on a aussi bien des enfants que des personnes de plus de 70 ans qui viennent nous voir pour nous dire des choses différentes, mais on s'y retrouve à peu près sur les mêmes idées.
Ouais. Et dans la façon que vous avez de travailler votre musique, de composer des choses, de la porter sur scène, est-ce que à la fois tous ces moments de live, toutes ces rencontres, ça a fait changer votre façon de faire de la musique ?
Je pense pas. Je pense pas que ça a vraiment changé grand-chose. On reste avant tout une bande de potes qui fait vraiment ce qui les intéresse. Donc j'espère que ça changera jamais.
Mais on se force à travailler un peu plus, peut-être.
C'est pas totalement faux non plus.
Forcément, il y a des évolutions. Charles, Massimo, ça a changé quelque chose dans votre façon de faire la musique ?
Non. Concrètement, non, mais en tout cas, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement à chaque fois que...
Ça motive, quoi, en tout cas. Ouais. On a envie d'en faire deux fois plus et on essaye de le faire.
Donc, le premier EP, il est sorti la semaine dernière.
Ouais, le 14.
Le 14. Il y a quatre titres dessus. Et souvent, moi, je vais revenir un petit peu à votre musique parce que, à la fois, il y a des gens qui vous connaissent, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. J'ai beaucoup vu pour parler de votre musique, de ce que vous faites. Bien sûr, on va l'écouter. Les mots post-pop qui sont un peu vagues. Mmh. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut dans post-pop.
Effectivement.
Comme ça, on peut faire un peu ce qu'on veut derrière aussi.
C'est notre idée à la base, en tout cas.
Est-ce que c'est vous qui avez choisi ?
Ouais, parce qu'on ne voulait pas enlever pop parce que c'est une volonté de base de faire de la musique pour parler au plus grand nombre. Et post, parce qu'on n'a pas envie de se fermer tout ce qu'on peut mettre de pas bien dans la pop, dans la tête de n'importe qui.
Ok. Et sur cette EP, donc il y a quatre titres que vous avez dû choisir parce que vous en avez composé plus, il y a plus de choses. Pourquoi vous avez choisi cela ? Comment ça s'est fait ?
C'est dans les premiers qu'on a fait, en fait, et qui nous paraissait un peu logique de balancer en premier. Et on se retrouve pas mal dans l'idée du début de faire de la musique. Il y a des textes qui parlent d'être ensemble et de faire du son.
Ouais, c'est une belle manière de se présenter.
Oui, c'est ça. Ouais. On a voulu mettre quatre morceaux assez différents aussi dans l'esthétique.
C'est un peu notre CV, ce premier EP.
C'est ça.
C'était ça l'objectif.
C'est pour ça qu'on a mis une photo de chien en couverture.
C'est vrai, mais on va y revenir à cette couverture. C'est vrai qu'il y a le rapport au chien qui est dans le titre, on en avait parlé. Je vous propose d'écouter un premier extrait de cette EP, c'est The Cliff. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quelques mots dessus.
Pas spécialement, non.
Ça va.
Juste on l'écoute, on le découvre.
Waking up flying up above my soul, eyes on the landscape, friends are gone, with every single song, post time I'm ready to go. Oh, waking up tired, oh so tired, running on the sand, sad, 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 sad. Did you see the cliff when you started to run? Did you see the cliff when you started to run?
Vous écoutez Radio G et l'oreille curieuse. On écoutait Cliff, un extrait du premier EP de Dogs for Friends, et je suis toujours dans les studios avec Charles, Baptiste et Massimo sur Radio G, bien sûr. Je ne sais pas si je vous l'ai redit, mais peut-être que vous posiez la question. Alors, dans Fat Boy, vous en parliez un petit peu des sources d'inspiration de l'écriture, de Être Ensemble, par exemple. De quoi vous avez envie de parler dans vos morceaux en général ? De la vie ?
Oui, évidemment. Ouais. Oui, de la vie, de ce qu'on vit au quotidien, des questions qu'on se pose par rapport à des grandes choses, en essayant de les dire de manière différente. Et voilà.
Nos sentiments, nos sensations, ce que l'on vit, ouais, tout ça.
Et tout ce pourquoi on peut faire de la musique en général.
Et on avait parlé d'une composition qui pouvait être à plusieurs, collective. Est-ce que pour l'écriture aussi, des paroles, des textes, c'est le cas ?
C'est pas forcément le cas sur les morceaux qui existent actuellement, enfin qu'on a sortis, mais ça tend vers ça en tout cas. Je sais que moi j'ai écrit pas mal de textes, mais Baptiste aussi s'y met, me soumet certaines idées et j'accepte, ou je casse tout. Et voilà, on fait ça ensemble, on en parle en tout cas.
On participe tous à un moment donné, on va lire les paroles et dire si ça nous parle aussi ou pas.
Mm-hmm.
Tout simplement, ouais, dès qu'il y a quelque chose qui convient pas à un membre du groupe, on s'arrange pour que ça convienne à tout le monde, tout simplement.
C'est la joie du collectif.
Exactement.
Mm-hmm. Et sur les quatre titres, moi j'ai eu le sentiment qu'on pouvait entendre vraiment différents niveaux d'écoute, différentes couches, qu'il y avait beaucoup de surprises, de choses en fait, que c'était très riche dans la composition. Enfin, en fait, moi je l'ai trouvé très agréable à écouter, vraiment super.
Merci.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différentes influences musicales, des questions de rythme, même si c'est des choses très techniques dans la composition en fait. Où est-ce que vous allez piocher aussi avec vos influences de chacun, en étant quatre dans ce groupe? Et comment vous le mettez ensemble dans les morceaux?
Déjà, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a chacun notre univers propre. Il y en a qui ont plus été influencés par la folk, d'autres plus par l'électro, d'autres plus par le rock, le punk. On tape un peu à droite à gauche, en fait. Et après, pour cette EP, les influences qu'on a eues, elles sont multiples.
Ou même en général.
Même en général, y a plusieurs groupes qui... Enfin, puisque à chaque fois qu'on parle de musique, il faut toujours se référer à autre chose. Il y a plusieurs groupes qui nous paraissent importants, tels que King Krul, Motorama, Moonkimbi, The National. Et je m'arrêterai là, parce qu'autrement, je vais pas...
Il y en a plein.
Ouais, ça va être très long.
Et je me demandais aussi par rapport à peut-être des façons de faire de la musique, des cultures musicales aussi, est-ce que ça c'est des choses dans lesquelles vous pouvez aller piocher, même des choses traditionnelles ou vernaculaires, pour utiliser un mot bien complexe? Ouais.
Je sais pas si on cherche forcément à faire quelque chose d'exotique, mais on va essayer de casser un peu tout ce qu'on sait faire facilement aussi. On a une volonté d'essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois, quoi, si possible, en restant lisible.
Pour revenir un peu à l'EP, donc Fat Boy, on a parlé un peu de... Moi, je vous ai dit que je l'avais trouvé assez riche, qu'il y avait plein de choses. Souvent, on va parler de mélancolie ou de choses un peu spleen, un peu triste quand on va entendre votre musique. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'énergie, de joie, de plaisir, de la rage parfois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bah, l'enjeu, c'est de faire de la musique de dépressif, mais pas jusque là quoi non plus. Enfin, c'est relever un peu le truc à chaque fois.
On vous donne ça. Envie de vous pendre, après on vous enlève la corde.
C'est ça, un peu l'idée. Il y a forcément le spleen qui fait un peu partie de nous, je pense, malgré nous. Et on s'y conforte peut-être un peu, mais on aime bien aller essayer de pousser ça au maximum pour voir jusqu'où on peut aller.
Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des moments d'humour. Et là, je pense un petit peu à la pochette. En tout cas, moi, je la trouve un peu décalée. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, la pochette de cette EP ?
C'est un monsieur tout seul sur un tabouret dans sa cuisine, avec une tête de chien en train de fumer une clope, ou en tout cas tout ce qui s'apparente à être une clope, et avec un récipient vide et une cuillère vide aussi, devant lui, à côté de lui. Avec une bouilloire branchée aussi sur le mur.
Ça a l'air très triste. Mais il y a cette tête de chien.
Mais un chien qui a l'air triste aussi, d'ailleurs, c'est un peu... c'est un peu ça.
Et je crois qu'ils sont en train de fumer. Et comment vous en êtes arrivé à cette image-là?
À la base, c'était juste une blague.
Ouais.
Et c'était pas la même tête de chien. Et pour des questions de droit d'auteur, on a pris la photo de mon chien.
Dédé?
Oui, c'est ça, exactement. Il est déjà connu, apparemment.
Il est très connu sur les ondes de Radio G.
Okay,
il se renseigne avant de recevoir les groupes. Donc Dédé est devenu la mascotte ou l'image.
C'est la mascotte,
c'est ça. Ouais. Ouais. Dans un premier temps, jusqu'à ce qu'il se sépare de nous, peut-être un jour, pour d'autres projets.
Et alors, on peut écouter Fatboy sur les plateformes modernes d'écoute, tout ça habituel. Est-ce qu'on pourra le retrouver en CD pour les personnes qui...
Un jour peut-être. On ne se ferme aucune porte.
Oui, ça arrivera certainement, mais ce n'est pas dans nos priorités tout de suite. Là.
Exactement.
Ouais. Et les autres titres, il y a d'autres titres, j'imagine, qui sont prêts, qui existent. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez faire vivre?
Ils sont en cours de préparation.
Ils sont pas vraiment prêts non, encore non plus. Mais...
En termes d'enregistrement pour le prochain EP qui suivra
l'année prochaine,
été, j'espère. Oui.
Pour l'instant, pour les écouter, faut venir à nos concerts.
Très jolie transition. Mais alors, j'ai envie d'inviter tout le monde à votre release party.
Nous aussi.
Le 29, mais elle est complète.
Il faut demander au Shabada. Ouais.
Au Shabada ?
Ouais, pour le déplacer, aller dans la grande salle, je pense que c'est jouable. Hein.
Je ne sais pas. Je n'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement.
Dommage.
Donc, la scène, qui est aussi un moment important. Et il y a un autre moment qui est un peu important, j'ai l'impression, dans la vie des groupes de nos jours, c'est de faire des clips. Faire des vidéos parce que c'est une façon de partager la musique, de la rendre vivante, de toucher d'autres personnes. Est-ce que vous, c'est aussi un aspect important?
Ben, on s'est un peu senti obligé et en même temps on avait envie de le faire parce que ça fait partie des cartes de visite aujourd'hui dans le monde de la musique. Il faut se présenter. Ça nous permettait de donner un peu plus que juste la musique qu'on faisait, d'expliquer un peu où on voulait en venir, même si on n'a pas fait une liste descriptive non plus, quoi. C'est un truc assez imagé. Mais ça nous paraissait un peu évident, ouais.
Et le dernier clip que vous avez sorti, c'est Cold Sun.
Exactement.
Qui est aussi un peu... On suit un homme qui est beaucoup seul, enfin qui fait du stop. Pourquoi cette histoire-là, enfin, comment vous la racontez et pourquoi vous aviez envie de raconter ça?
Bah, le but, c'était de représenter un mec tout seul, en décalage avec son temps, hein, complètement, un jogging intégral, qui a l'air de plus trop en avoir grand chose à foutre de tout,
qui sait même pas où il va au final.
C'est ça, ouais, mais qui se balade juste
et qui va quand même,
mais qui est vraiment l'idée c'est qu'il est seul quand même et qu'on sent qu'il n'y a pas tout qui va,
mais il avance,
mais il avance quand même.
Et c'est ça le plus important,
il passe de bons moments aussi.
Oui, j'ai pas envie que les personnes qui nous écoutent pensent que vous êtes un groupe uniquement de la tristesse, de la solitude. Ou...
Non, pas tout le temps. Non.
Et cet humour, on peut aussi le retrouver, en tout cas moi je l'ai trouvé, dans ce que vous pouvez proposer avec tout ce qui va être réseaux sociaux, où il peut y avoir des images, des choix musicaux très décalés. Je ne sais pas qui est responsable, mais par exemple sur votre fil Instagram,
oui.
Où vous pouvez communiquer vraiment autour de ce que vous faites, mais avec plein d'extraits musicaux qui n'ont rien à voir avec votre musique.
Mmh. Oui, on aime bien ce décalage-là aussi. C'est un peu absurde et un peu cynique aussi dans l'idée. Mais c'est surtout la rigolade, quoi, parce que c'est des choses qu'on se permettrait pas de raconter dans notre musique, parce que c'est des grosses blagues, en fait. C'est pas...
Mais c'est quand même aussi un peu nous, quoi.
Oui, c'est ça. Jusqu'en musique, ça, sinon, il faut faire du Patrick Sébastien, quoi, c'est ça l'idée. On n'a pas encore de projet comme ça.
Mais par contre, on aime beaucoup.
Pourquoi pas? Plein de choses à dire, plein de choses à voir, et moi je vois ma super horloge. Donc on a plusieurs façons de vous découvrir. Musicalement, on peut aller écouter l'EP Fatboy, donc de Dogs for Friends, hein. Peut-être que vous venez de rejoindre l'antenne. Et pour les plus curieux qui peuvent voir ou découvrir que vous avez aussi de l'humour, eh bien, il faut aller voir un petit peu du côté des réseaux sociaux ou les clips ou les choses comme ça.
Oui, c'est ça. Sur Instagram, c'est DogoFriendo. Ça donne le ton.
C'est cool. On va écouter un autre extrait, c'est Anidia. Vous voulez nous en dire deux, trois mots de ce titre-là?
C'est une chanson d'amour toute douce.
Tout douce. Elle s'adresse à qui, cette chanson d'amour?
À ceux qui l'entendront.
C'est ça. Bon,
c'est joli.
T'aurais dû écrire les paroles.
Merci beaucoup à tous les trois, Dogs for Friends.
Merci,
merci
à vous.
À vous.
Si vous êtes quatre en vrai. Mmh. Et puis, allez écouter l'EP, il est très chouette.
SVP.
When the wind comes tracking my head, I need you by my side. You left me to fill up your eye. I won't say mine, I'll try. Building gutters under my tired eyes. You don't know how I thrive. I keep being jealous of birds. I don't know how to fly. I need you by my side.
C'est les Dogs for Friends et je vous rappelle qu'ils passent ce samedi au Garage à Angers. Je pense que ça va être un très bon concert. Vous écoutez L'Oreille Curieuse, vous êtes sur Radio G. Le concert c'est à partir de 20h30 samedi. Et maintenant, c'est l'heure de parler de cinéma et de partir au cœur d'un film et de sa mise en scène avec la chronique d'Étoiles plein les yeux. Bonjour Margot.
Bonjour Anne-Lie et bonjour à toutes et tous. Et bien sûr, bonne année. Me revoilà à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits.
Alors, quel est le menu ce soir ?
Il ne vous aura pas échappé que, côté actualité, l'année démarre à 200 à l'heure, un peu comme un hommage à 2020 sans le 2 au milieu. J'ai hésité à vous parler ce soir de La Grande Évasion, ou même de Carlos, le film d'Olivia Assayas, consacré non pas à l'ex-PDG à la une de tous nos journaux, mais au terrorisme du même prénom. Néanmoins, je préfère évoquer avec vous ce soir un monument du cinéma iranien, le réalisateur Abbas Kiarostami, une cible culturelle qui ne risque pas d'être ébranlée par les tensions actuelles avec les États-Unis, parce qu'il est mort en 2016.
Abbas Kiarostami.
Eh oui, avant Jafar Panahi et son Taxi Téhéran, ou Asghar Farhadi et Une séparation, il y a eu Abbas Kiarostami. Une carrière longue d'une trentaine de films, courts et longs métrages, dont Le goût de la cerise, Palme d'or au Festival de Cannes en 1997. Le film dont j'aimerais vous parler ce soir s'appelle « Où est la maison de mon ami ?» et il date de 1987. Présenté dans de nombreux festivals à travers le monde, c'est l'œuvre qui a fait connaître Abbas Kiarostami aux cinéphiles et qui a participé à l'émergence du cinéma iranien au niveau international. Et c'est un film que vous pouvez regarder en famille, avec vos enfants, quand ils savent bien lire, car il n'est disponible qu'en VO-STF, c'est-à-dire en version originale sous-titrée français. Eh bien, je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait du film, le début de la scène d'ouverture. Où est la maison de mon ami s'ouvre sur un plan fixe qui dure plus d'une minute et dont nous écoutons seulement la dernière partie. Une minute, avec l'image d'une porte close, qui bat régulièrement contre son chambranle. Le plan fixe, c'est-à-dire quand le cadre de l'image reste immobile, est caractéristique du cinéma de Kiarostami, qui était également photographe et plasticien. Le film raconte quelques heures dans la vie d'un jeune garçon, Ahmad, 8 ou 9 ans, que l'on va découvrir dans la suite de la séquence. Le son que nous entendons, des cris d'enfants déchaînés, nous indique qu'il est à l'école, derrière cette porte. Après la dernière mention du générique début,
un film de Abbas Kiarostami,
une ombre grandit dans l'image, des bruits de pas se font entendre et une main pousse la porte. Le plan suivant, nous sommes dans la salle de classe. La caméra est au fond de la pièce, comme assise au dernier rang. Le maître rentre et hurle.
C'est pas parce que je suis un peu en retard que vous pouvez chahuter.
Les élèves regagnent leur place. Un garçon en tricot rouge s'assoit le dernier, c'est Ahmad.
Et votre promesse d'être sage ?
Ajoute le maître. La caméra, jusque-là en plan fixe, accompagne ses mouvements. Après avoir poussé la porte, il ferme la fenêtre. La classe peut commencer. Abbas Kiarostami a tourné de nombreux films dans des décors d'école. Ce ne sont pas des documentaires, mais bien des œuvres de fiction. Pourtant, grâce au travail du réalisateur sur la durée des plans ou au choix de ses comédiens, la plupart du temps non professionnels, il ressort de ces films une impression très forte de réalité et de véracité. Non sans humour et une dose de provocation, il brouille à dessein les frontières du genre.
Que ce soit du documentaire ou de la fiction, le tout est un grand mensonge que nous racontons aux spectateurs. Notre art consiste à dire ce mensonge de sorte que le spectateur le croit. Le plus important, c'est que le spectateur sache que nous alignons une série de mensonges pour arriver à une vérité plus grande. Des mensonges pas réels, mais vrais, en quelque sorte.
Écoutons maintenant la suite de la scène. Nous sommes toujours dans la salle de classe, avec ses rangées de petits bureaux en bois, une estrade et un tableau noir à la craie. L'école d'un petit village de la campagne iranienne dans les années 80, mais un décor plutôt universel. L'instituteur vérifie les devoirs. La caméra, toujours au fond de la salle, le montre debout, circulant entre les rangs d'élèves assis. Il se courbe sur leur cahier, reprend un enfant qui a parlé sans sa permission. Il s'approche d'Ahmad, puis avise la feuille volante sur laquelle son voisin a fait ses devoirs.
Combien de fois t'ai-je dit de faire tes devoirs sur le cahier ?
Gros plan sur le visage mutique de l'élève sermonné.
Combien de fois, Nematsadeh ?
Gros plan à présent sur Ahmad, le maître continue d'éructer en hors-champ, ce qui rend ses propos d'autant plus violents. L'image se concentre sur le visage des deux garçons, côte à côte dans le plan, nous faisant comprendre leur profonde amitié et solidarité. Le maître insiste.
Seba. Trois fois,
répond enfin Nematsadeh, qui n'ose lever les yeux vers l'instituteur. L'échange se clôt sur une menace du maître, très à cheval sur la discipline. La prochaine fois que Nematsadeh ne fait pas ses devoirs dans son cahier, il sera renvoyé de l'école. Cet avertissement est le nœud du film. Dans la séquence suivante, Ahmad emporte par mégarde le cahier de son ami. Quand il aura réalisé sa méprise, il n'aura de cesse de chercher son ami pour le lui rendre. Écoutons à présent un nouvel extrait de « Où est la maison ?» de mon ami. Après l'école, Ahmad rentre chez lui. La porte se ferme. Le garçon entre dans la cour intérieure de la maison, entouré d'une galerie couverte dont l'étage repose sur de gros poteaux de bois alignés. Sa mère est là, ainsi que sa grand-mère et un bébé. Elle étend le linge dans la cour, puis vient changer son bébé sous la galerie, là où s'est aussi engouffré Ahmad.
Ahmad, donne-moi une couche.
Face à nous, Ahmad vide le contenu de son cartable. Alignés de façon régulière, les poteaux de la galerie font comme les barreaux d'une prison. Sans quitter la galerie, il apporte un linge à sa mère.
Ahmad, celle-ci est humide.
Il repart dans l'autre sens chercher un autre linge, circulant toujours dans cet espace cerné par les poteaux.
Dépêche-toi.
Ahmad rentre à l'intérieur. Dans la pièce, une fenêtre en hauteur donne sur la rue. À travers la vitre, Nemadzadeh, elle, son amie.
Ahmad. Où es-tu, Ahmad? Tu viens jouer? J'ai mes devoirs,
répond Ahmad. La fenêtre fermée donne à la pièce des allures de cellule. Déjà, la mère rappelle son fils à ses obligations. Alors on le comprend dans cette scène, et c'est valable dans tout le film, le décor, découpé ici en plusieurs espaces symboliquement clos, agit comme une métaphore des sentiments du héros. Celui-ci est confronté à une série d'adultes dans le film, son instituteur, puis sa mère, puis ensuite son grand-père, tous représentant d'une forme d'autorité aveugle ou arbitraire. Il ne cherche pas à l'écouter, mais l'enferme dans une somme de devoirs et d'obligations, un carcan de règles et de disciplines qu'on ne discute pas. La suite de la scène, que nous allons écouter maintenant, est particulièrement éloquente de ce point de vue-là. Ahmad s'est enfin rendu compte qu'il a emporté par mégarde le cahier de Nemadzadeh, et il tente de convaincre sa mère de l'autoriser à retrouver son ami qui habite Pocheté, le village voisin. En vain. Ahmad est dorénavant seul sous la galerie. Sa mère est rentrée avec le bébé. Il a terminé ses devoirs et range ses cahiers dans son cartable. La caméra nous montre le garçon derrière les poteaux de la galerie, symboliquement emprisonné dans cet espace. Il enfile ses chaussures et s'approche de la ligne de poteaux. La caméra le suit. Il hésite et revient sur ses pas. Il sort de son cartable le cahier de son ami, puis le dissimule prestement sous son tricot. Un gong régulier se fait entendre comme une musique intérieure impérieuse. Il s'élance à nouveau vers les poteaux, s'arrête, vérifie, ce n'est pas le bon cahier. Il retourne faire l'échange. Quand il se rue enfin hors de la galerie, puis de la cour, la musique accompagne sa fuite. La porte se ferme en claquant, donnant à cette courte séquence l'apparence d'une véritable évasion. Le cahier sous le bras, Ahmad dévale maintenant les rues du village, passant en courant devant des étals de marchandises. La musique accompagne sa fuite et lui donne un ton picaresque. Étonné, quelques vieillards assis sur le pas d'une maison le regardent partir. L'un d'eux est son grand-père.
Ce n'était pas notre Ahmad? Qu'est-ce qu'il va faire à Pocheté?
Le plan suivant est l'un des plus célèbres du cinéma de Kiarostami, un plan large qui embrasse une colline brune traversée d'un sentier en zigzag. Au sommet, un arbre semble attendre le garçon qui grimpe en courant le long du chemin. Le plan fixe donne à voir son ascension dans toute sa durée. L'espace dans l'image figure la liberté retrouvée du garçon qui brave l'interdiction des adultes pour suivre son instinct et retrouver son ami. C'est seulement quand Ahmad, parvenu en haut de la colline, disparaît de l'autre côté que le plan change. On le retrouve courant le long d'un autre chemin. La caméra, en bas de la colline, nous montre sa silhouette qui se détache sur le ciel couvert de l'après-midi. Alors ce qui est flagrant dans cet extrait, c'est que c'est dans la durée étirée des plans que se niche le suspense du film, à hauteur d'enfant. Où est le village de Pocheté où habite Nemadzadeh? Est-ce qu'Ahmad va y arriver avant la nuit? Celui qui interprète Ahmad, c'est le jeune Ahmed Ahmedpour, au visage particulièrement expressif et profond. Le film comporte assez peu de dialogues. Les émotions passent par le jeu exceptionnel de ce comédien non professionnel. Abbas Kiarostami précise.
Un acteur n'est pas seulement un acteur. Il est aussi le scénariste, le réalisateur et même le monteur. Parce qu'il ne te permet pas de décider sans lui. Souvent même, on doit changer l'objectif selon son comportement.
Écoutons maintenant un dernier extrait du film. Après une course effrénée, Ahmad est arrivé dans un village et erre dans les ruelles à la recherche
de la maison de son ami.
Dans une rue, un linge tombe à ses pieds.
Petit, tu peux me le balancer ?
Il se baisse. Le cadre fixe de l'image, centré sur Ahmad devant la maison, ne nous montre pas la provenance du drap. Le garçon lance plusieurs fois le linge, qui retombe à chaque fois.
Lance-le plus haut. Il ne peut pas, il n'a pas assez de force.
À l'image, un balcon et une fenêtre où discutent les deux voisines, au-dessus d'Ahmad, qui n'est pas dans le plan. Puis la caméra revient sur lui, qui ramasse le drap pour le tendre à bout de bras à la femme sur le balcon. C'est le seul moment où l'image montre Ahmad et la femme ensemble. Le drap fait la liaison entre les deux corps qui ne se touchent pas. Ahmad demande
« Vous savez où se trouve la maison de Nemat Sadeh ?»
La femme au drap répond
« Où ça ?» Pocheté.
Pocheté. Le film se construit ainsi sur une succession de rencontres qui sont autant d'occasions de filmer la société iranienne des campagnes. Les femmes à la maison, les hommes qui travaillent ou qui traînent. À la question simple de l'enfant, toujours la même, les adultes ne proposent que des réponses embrouillées et vaines. Abbas Kiarostami a commencé à tourner des films en 1970 pour le compte du Kanoun, un organisme public créé à l'initiative de la femme du chat. Kanoun signifie « Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes ». L'idée, c'était d'éduquer la jeunesse à travers les arts, et donc, dans le domaine du cinéma, de faire des films éducatifs. Les premiers films de Kiarostami, comme « Où est la maison de mon ami », sont produits par cet organisme et s'adressent d'abord au jeune public, avec des héros qui ont leur âge. Mais ce qui les rend uniques et universels, ces films, c'est de dépasser l'objectif pédagogique du cadre de leur production pour interroger chacun d'entre nous, spectateurs enfants ou adultes, sur notre rapport au monde.
L'art n'a pas à juger, l'art doit faire réfléchir,
disait Kiarostami. On se quitte en écoutant quelques mesures de la musique du film.
Où est la maison de mon ami ? Un film réalisé par Abbas Kiarostami est sorti en salle en mars 1990.
Le film est disponible en DVD, édité par les Films du Paradoxe. Mais je vous signale que l'éditeur Potemkin travaille à une nouvelle édition, enrichi de nombreux bonus et éclairages sur l'œuvre de ce géant du cinéma iranien. Vous y retrouverez, entre autres, le documentaire sur Kiarostami par Jean-Pierre Limousin, dont sont issues les citations lues ce soir. Et à l'occasion du festival Premier Plan d'Angers, qui a lieu tout bientôt, fin janvier, n'hésitez pas à voir ou revoir sur grand écran un autre long-métrage de ce réalisateur, copie conforme, avec Juliette Binoche dans le rôle principal.
La fin de l'oreille curieuse. Avant de se quitter, je tenais à vous parler d'un événement qui a lieu demain. Nous serons vendredi soir. C'est une soirée de soutien à la Grande Ourse, un lieu de vie qui est aussi un squat en plein cœur d'Angers, où il se passe plein de choses. Vous pouvez y aller, c'est ouvert. C'est du côté de la Doutre. Alors demain soir, il y a une soirée à l'Étincelle. Alors ça commence même à partir de 17h30 et c'est une soirée qui a pour thème le fanzina et l'auto-édition. Et il y aura aussi des ateliers, des concerts. Vous y retrouverez La Marge, le collectif d'auto-édition hyper dynamique, hyper sympa. Il y aura un livre de Louise Michel, un atelier relure. Et pour finir, à partir de 20h, des lives, ça va taper. Il y aura le Souffle du Larsen, le Grand Orchestre d'Alphonse Sauvage, Terminal 12 et Alpha Centauri. Voilà, j'ai fini en retard. Je vous souhaite une très belle soirée à écouter Radio G. On se retrouve lundi à 18h10 et nous serons avec Gris Cornac pour la sortie de leur nouvel album. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.
most obvious. Small jumpers, corkscrews, wacky socks, commuter belts, Scientologists without yogurt. We're just obvious. Hippie private schools fighting amongst themselves and beard trimmers and sloppy eyes with sloppy tears that splash upon the things that you left. We're just obvious. Alternative thoughts, alternative clothes, or leisurely dressed boss and corduroy all in one time team. We're just obvious. Like David Cameron, bow tie at breakfast, rotund facial cheekiness and borderline inference. Flirty coffee croissant crumbs in the morning, going to war your best pals. We're just obvious. Listening to Florence and the Machine and having a roll up. A man with soft hands and a dark heart. Politically cautious with nice skin, are working. Impotent, white, obvious people with shocking clothes and awful music, red death and a science of being a knob. I don't like anyone's music, not mine. New world order. We're just obvious. Only my honesty matters. And having a roll up, being supportive. The backbone, the leg bone, the bone, the bone. We're just obvious. Tiny little pale porcelain ants running around in a large fishbowl full of aggressive men with beard trimmers. Just obvious. Small jumpers, corkscrews, wacky socks, commuter belts, Scientologists without yogurt. We're just obvious. Hippie private schools fighting amongst themselves and beard trimmers and sloppy eyes with sloppy tears that splash upon the things that you left. We're just obvious. Alternative thoughts, alternative clothes, or leisurely dressed boss and corduroy all in one time team. We're just obvious. Like David Cameron, bow tie at breakfast, rotund facial cheekiness and borderline inference. Flirty coffee croissant crumbs in the morning, going to war your best pals. We're just obvious. Listening to Florence and the Machine and having a roll up. A man with soft hands and a dark heart. Politically cautious with nice skin, are working. Impotent, white, obvious people with shocking clothes and awful music, red death and a science of being a knob. I don't like anyone's music, not mine. New world order. We're just obvious. Only my honesty matters. And having a roll up, being supportive. The backbone, the leg bone, the bone, the bone. We're just obvious. Tiny little pale porcelain ants running around in a large fishbowl full of aggressive men with beard trimmers.
www.radio-g.fr